Deutsche Welle. Droits et libertés.
Cap sur l'Asie dans cette édition de Droits et libertés, diffusée à cheval sur 2013 et 2014, nous irons en Birmanie où le président avait promis de libérer tous les prisonniers politiques avant la fin de l'année 2013. Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine qui vous est proposé par Marie-Ange Piron. C'est un pays qui a vécu des décennies de dictature militaire. Il a, entre autres, deux puissants voisins, la Chine et l'Inde. C'est la Birmanie, ou pour reprendre son nom officiel, la République de Myanmar. Depuis 2011, la junte militaire a cédé la place à un gouvernement civil. La principale opposante, Aung San Suu Kyi, a été libérée de son assignation à résidence et elle est devenue députée. Bref, le régime s'est libéralisé, en conséquence de quoi l'Union européenne et les États-Unis ont allégé leurs sanctions, excepté l'embargo sur les armes. Le président birman l'avait promis à la communauté internationale. Il n'y aurait plus un seul prisonnier politique dans les geôles de son pays à la fin de l'année 2013. Une promesse ambitieuse car il y a 3 ans, ils étaient environ 2000 incarcérés pour des raisons politiques. Aujourd'hui, les chiffres officiels montrent que le président birman est proche de son objectif, mais paradoxalement, la Birmanie continue d'arrêter de nouveaux dissidents et de nombreux cas ne sont pas recensés, particulièrement dans les prisons de l'ouest du pays. Un reportage de Rémi Favre.
Le pouvoir réformateur birman a libéré les prisonniers politiques au compte-gouttes ces 2 dernières années. Aujourd'hui, il n'en resterait plus qu'une 50aine dans les geôles du pays. Le président birman a mis sur pied un comité chargé de les identifier en vue de les relâcher. Bochi en est membre.
Le gouvernement veut montrer à la communauté internationale qu'il fait de très bonnes réformes, qu'il libère des prisonniers politiques. Il veut que les États-Unis lèvent leurs sanctions. Il veut que les Nations Unies retirent la Birmanie de l'ordre du jour du Conseil des droits de l'homme de l'Assemblée générale. Il veut plus de légitimité sur la scène internationale.
Mais ce comité n'a pas de budget et le pouvoir ne l'autorise pas à enquêter dans l'état de l'Arakan, cette région de l'ouest du pays, théâtre de violents conflits entre bouddhistes et musulmans depuis 1 an et demi.
Au moins 500 personnes ont été incarcérées dans l'état de l'Arakan. Beaucoup d'entre elles n'ont peut-être commis aucun crime. Il est très difficile d'assurer qu'il n'y a plus de prisonniers politiques en Birmanie. Nous avons du mal à croire le gouvernement civil.
La plupart des prisonniers politiques libérés ces 2 dernières années avaient été incarcérés sous le précédent régime militaire avant 2011. Mais le gouvernement réformateur actuel continue d'arrêter des dissidents. Plus de 200 activistes attendent actuellement de passer en jugement. Souvent, la justice leur reproche d'avoir manifesté sans autorisation. C'est ce qui est arrivé à Kotunji. Il a passé presque 2 mois à la prison de Chokpyu.
En avril, Chokpyu était sous état d'urgence. Les autorités nous ont dit que c'était pour cette raison qu'elles n'avaient pas pu nous donner l'autorisation de manifester. Mais je n'y crois pas parce que les autorités, à la même période, ont donné la permission à d'autres gens de manifester. Il y a donc une raison politique derrière tout ça. Notre manifestation était directement liée à la contestation d'investissements chinois. Le gouvernement birman était sous pression chinoise. Si les autorités nous avaient donné l'autorisation de manifester, cela aurait donné aux intérêts chinois une mauvaise image sur la scène internationale.
Alors les défenseurs des droits de l'homme s'inquiètent. Ils craignent que le gouvernement mette sous les verrous les protestataires les plus gênants tout en clôturant la question des prisonniers politiques. Thomas Quintana est le rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme en Birmanie.
J'aimerais vraiment que le comité des prisonniers politiques ne soit pas dissous à la fin de cette année sous prétexte que tous les prisonniers politiques auraient été libérés. La façon dont je vois les choses, c'est qu'il y aura plus de personnes en prison, de potentiels cas de prisonniers politiques. Par conséquent, le comité des prisonniers politiques doit encore travailler l'an prochain.
By the end of the year. Tomás Quintana plaide pour une révision de la législation qui encadre les mouvements de protestation afin que les manifestants n'aient plus à demander des autorisations pour défiler, mais qu'ils n'aient qu'à informer les autorités. Pas facile, car même au sein des activistes birmans, cette revendication ne fait pas l'unanimité. Pour Neponlat, un ancien prisonnier politique, les manifestations d'extrémistes religieux récurrentes dans le pays doivent être strictement encadrées.
Sous le gouvernement militaire, nous nous battions pour la liberté d'expression. Mais maintenant, nous sommes en période de transition. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent la liberté d'expression à mauvais escient. La liberté d'expression n'est pas liberté de s'insulter. Mais maintenant, des gens utilisent la liberté d'expression pour diffamer, inciter à la violence et à la haine.
En septembre, le pouvoir birman a arrêté plus d'activistes qu'il n'en a libéré. Depuis fin novembre, au moins 16 dissidents ont été condamnés à des amendes ou des peines de prison ferme pour avoir manifesté sans autorisation ou troublé l'ordre public. Rémi Favre, Rangoon pour la Deutsche Welle.
L'extrémisme religieux s'est effectivement exprimé à plusieurs reprises ces derniers temps en Birmanie. Des moines bouddhistes radicaux attisent le sentiment anti-musulman à l'égard d'une minorité du pays, une minorité musulmane donc, les Rohingyas, que l'ONU considère comme l'une des minorités les plus persécutées au monde. Ils sont à peu près 800 000 en Birmanie sur une population d'environ 60 millions d'habitants et ils n'ont littéralement aucun droit puisqu'ils n'ont pas même accès à la nationalité birmane. Elle leur est refusée au prétexte qu'ils sont des immigrants illégaux venus du Bangladesh alors que leur présence en Birmanie est attestée depuis des générations. Et puis, à ce tournant de l'année, j'aimerais revenir sur un événement qui a marqué les esprits en matière d'atteinte aux droits de l'homme. Cela s'est passé en République démocratique du Congo. L'on sait que là-bas, surtout dans l'est du pays, l'actualité n'est pas avare d'atrocités. Les populations en ont fait abondamment l'expérience. Mais après la neutralisation de la rébellion du M23, l'on espérait avoir au moins un répit. Seulement voilà, d'autres groupes armés sont toujours actifs et on a le sentiment qu'ils sont encore plus enragés depuis la reddition du M23. Une vingtaine de civils, femmes et enfants inclus, ont été atrocement tués et mutilés entre le 13 et le 14 décembre dans la région de Beni. La société civile attribue ce massacre à la rébellion ougandaise et islamiste des ADF Nalu. L'ONU, par la bouche du commandant de la MONUSCO, le général brésilien Dos Santos Cruz, a crié son indignation.
This kind of crime that we have acknowledged at this moment in the general area of Beni.
Mais ce crime dont nous avons eu connaissance ce matin dans la région de Beni
is something that shocked the society.
C'est quelque chose qui choque toute la société.
Shock the normal citizen.
Qui choque toute personne normale.
By the violence against the women, against the children, against all the people assassinated there.
Des violences indiscriminées contre les femmes, contre les enfants qui ont été assassinés.
It's when assassinate coward from this armed group.
Ce sont des assassinats lâches venant de ces groupes armés.
Not normal in the human being, even in the situations of violence we have.
Ce n'est pas normal même pour des êtres humains, même dans la situation de violence généralisée dans laquelle nous sommes.
It's not possible even to classify as animals.
Ce n'est même pas possible de les considérer comme des animaux.
When crime like this revolts all the normal. Human being.
Des crimes de ce genre révoltent tout être humain.
La MONUSCO a ouvert une enquête avant de désigner nommément un coupable. Il est vrai que les groupes armés pullulent dans la région et c'est ce qui amène justement l'organisation Amnesty International à publier un rapport sur les attaques dont sont victimes les défenseurs des droits humains dans la province du Nord Kivu. Le rapport s'intitule « Quitte à mourir, autant dire la vérité ». Sophie Rosenberg est chargée de campagne pour la RDC à Amnesty International.
Surtout surtout les femmes qui défendent les droits humains sont particulièrement en danger. On a parlé avec plus de 60 défenseurs des droits humains dans la zone du Nord Kivu, qui nous ont expliqué qu'il est extrêmement difficile de mener à bien leur travail en raison de menaces de mort, d'actes d'intimidation, des visites à leur domicile d'hommes armés, des détentions, des enlèvements. Et c'est depuis l'aggravation du conflit l'année dernière que nous soulevons une augmentation de ces cas de menaces. Par exemple, un défenseur m'a expliqué que les premiers ennemis que les groupes armés connaissent sont les défenseurs des droits de l'homme. Les services étatiques aussi les accusent comme des gens qui sont contre leurs intérêts. Et c'est une zone qui est en conflit depuis très longtemps, où les forces armées et l'infrastructure nationale n'apportent pas le soutien nécessaire aux victimes. Et c'est surtout un climat d'impunité qui règne au Congo.
Qui sont les auteurs de ces menaces contre les défenseurs des droits de l'homme au Congo?
Nous parlons de plusieurs cas de défenseurs des droits humains qui sont menacés par les nombreux groupes armés dans la zone. Par exemple, les M23 qui ont contrôlé la zone depuis mi-2012, l'année dernière, et qui viennent de quitter la zone le mois dernier. On a reçu beaucoup de rapports de menaces, d'intimidation par ce groupe-là, mais aussi d'autres groupes armés dans la région qui restent et qui continuent d'être actifs dans la zone. Et nous avons aussi reçu plusieurs cas, nous avons décrit plusieurs cas de menaces et d'intimidation et de détention arbitraire par des éléments des services de sécurité nationale du Congo.
Sophie Rosenberg d'Amnesty International, elle était interrogée par Gaëtan Padjeba. Nous arrivons au terme de ce magazine Droits et Libertés. Merci de votre fidélité et déjà tous mes meilleurs voeux pour 2014. Au micro, Marie-Ange Piron.